Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui aussi le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a crié. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit.
Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est gloire et éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, oh Dieu, tu es là, nous chantons, oh Dieu, tu es là, tous verront, oh Dieu, combien tu es là. Garde, je n'agirai. Sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu. Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es
Bonjour, je commence par des excuses de la part de l'équipe technique, car le réglage du chauffage de l'église n'a pas été tout à fait bien au point, ce qui... modifié. Alors, ce n'est pas par souci écologique d'épargne d'énergie, comme certains pourraient espérer, mais je compte sur vous pour réchauffer la salle. Et sur les musiciens, bien sûr. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui sont habitués, qui sont là tous les dimanches, mais aussi ceux qui viennent occasionnellement. Bienvenue à ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Et nous sommes en pensée à ceux qui sont déjà en vacances, mais qui sont sûrement aussi en pensée avec nous. Nous voulons les bénir et les demander au Seigneur de les protéger surtout, de les garder. Je ne sais pas comment vous, mais quand je vois un temps comme ça, depuis quelques jours déjà d'ailleurs, ça réjouit mon cœur et je me dis, Seigneur, pourquoi il ne fait pas beau comme ça tous les jours? Ça serait tellement bien, franchement. On sait que le taux de suicide dans les pays nordiques est bien plus élevé que dans le sud. Et on sait aussi que c'est à cause du soleil, précisément, entre autres. Mais alors, qu'est-ce qu'on serait sans la pluie? On le voit dans certains pays, notamment au nord de l'Afrique. Quel ravage peut faire le soleil, entre guillemets, c'est-à-dire le manque de pluie? Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce cantique qu'on a chanté dimanche passé à Palexpo. Descend, Esprit Saint, sur nous comme une pluie bienfaisante. Ça me fait ramener des larmes dans les yeux. Cette pluie bienfaisante, quand on voit ce que fait la pluie sur la terre, c'est absolument extraordinaire. J'aime même le bruit de la pluie. Quelqu'un disait à une vieille dame, « Oh, quel mauvais temps aujourd'hui, il flotte, c'est pas possible. » Et puis la vieille dame répond, « C'est le temps du Seigneur. » Et je suis entièrement d'accord avec cette dame, bien que j'apprécie énormément, comme vous tous, le soleil. J'aimerais tout d'abord prier, remettre ce culte de ce matin entre les mains de celui que nous sommes venus adorer, glorifier et fêter le jour du Seigneur. Notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions que ce culte que nous allons te rendre ce matin puisse être à ta gloire, puisse être digne de ta gloire, et que ton Saint-Esprit qui est présent, qu'il descende sur nous comme une pluie bienfaisante, Seigneur, et qu'il nous accompagne tout au long de cette matinée. Et nous te louons pour ce que tu vas nous dire à travers tous ceux qui vont animer ce culte, au nom de Jésus. Amen. C'était en mars 1953. J'allais avoir 10 ans. Ma maman fait l'irruption dans ma chambre et moi, je suis en train de pleurer. Affalé. Avec une photo dans mes mains. Sur cette photo, il y avait un portrait dans certain Joseph Vissarionovitch Djougachvili, communément connu plutôt sous le nom de Staline. Le pire de tous les tyrans sanguinaires que la porte n'a jamais porté. Et moi, je pleurais sa disparition dans mon ignorance totale. Quand ma maman m'a vu, elle a éclaté de colère. Il faut dire que depuis 1948, donc depuis 5 ans à cette époque, la Tchécoslovaquie est tombée dans l'escarcelle de Staline, qui était chef de l'Union soviétique, et le gouvernement tchèque ou tchécoslovaque s'est aligné parfaitement à la ligne politique de l'Union soviétique. La terreur et l'arbitraire a pris place de la démocratie. Les gens partaient en prison par milliers, tous ceux qui étaient opposés au régime, et parfois même au gibet. Des propriétaires d'une épicerie ou des paysans avec trois vaches qui s'opposaient à la confiscation de leurs biens étaient mis au ban de la société, traités de sales capitalistes et de koulaks, respectivement. On le savait, presque tout le monde le savait, du moins en partie, ce qui se passait. Mais tout le monde avait peur de représailles. La police secrète avait ses confidents partout. À l'école, on nous enseignait des mensonges sur l'enfer en Occident et le paradis en Union soviétique, le paradis des travailleurs. Et je l'ai cru. La colère de ma maman était plus forte que sa peur. Et elle m'a tout déballé, d'un coup. Et pour moi, le monde que je connaissais ou je croyais connaître s'est écroulé à cet instant même. Quelle hypocrisie, quel mensonge, Seigneur. Mes larmes se sont soudainement transformées en haine et en mépris profond pour cette idéologie et pour ses adhérents. Je raconte tout ça pour illustrer quels dégâts, quels ravages peut faire l'hypocrisie, et tout particulièrement dans le cœur d'un enfant de 9 ans. Cette blessure, jamais guérie, elle a été moteur pour moi de chercher une occasion de m'évader de ce pays que je détestais profondément et de chercher le refuge en Occident. En 1989, quand le régime communiste est tombé, il est tombé, mais pas mon mépris et ma haine profonde. C'était ma femme qui me l'a signalé à plusieurs reprises. Et puis finalement, j'ai quand même cherché à pardonner par différents moyens, par la lecture, par un séminaire également sur le pardon. Mais je n'ai pas guéri complètement. Cette semaine, par hasard, j'étais en train de lire un magnifique livre sur la masculinité. Il y a Thierry qui doit l'avoir d'ailleurs. Thierry Terra, et je suis tombé en lisant un chapitre sur le pardon, sur une phrase que je connaissais déjà, mais que le Saint-Esprit m'a fait lire avec une acuité toute nouvelle. Écoutez-la. Pardonner, c'est de libérer un prisonnier et apprendre que le prisonnier, c'était moi. Waouh ! Quelle découverte ! Et une vague de... Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais oui, une vague de pardon ou de demande de pardon m'a envahi à ce moment. Ce matin, j'aimerais vous demander de prier pour moi, de prier pour que ce pardon que j'ai accordé cette semaine à tous ceux que j'ai haïs au cours de mes plus de 60 ans puisse être durable. Amen. Amen. Voilà, et je donne place à notre groupe de louanges sous la baguette de David. Merci de m'avoir écouté.
Aujourd'hui, on se rend compte combien on est humain avec nos péchés face à un Dieu qui est saint, trois fois saint. On va, au fur et à mesure, pendant le culte, découvrir la réalité de cela. Mais réfléchissons à travers ces chants à la sainteté de Dieu, aussi au privilège que nous avons de venir dans sa présence pour le louer et pour l'adorer.
Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. jamais. Oh mon âme, rends gloire à son Saint Nom.
Voici.
Dans les lieux
puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts.
Seigneur, nous ne sommes pas dignes de venir dans ta présence. Mais merci parce que tu nous as invités de le faire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour que nous puissions justement connaître toi, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui a créé la terre, mais le Dieu qui est tout autre. Merci pour ton sang qui lave nos péchés. Merci pour ta fidélité. Merci que tu ne changes pas. Merci ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place.
Je vais lire un passage qui sera un peu la prolongation de mon témoignage de tout à l'heure à propos de l'hypocrisie. Nous lisons dans l'Acte, chapitre 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset 11. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun à eux, entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent, le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et l'apporta aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»«
Oui, » répondit-elle. « Oui, c'est à ce prix-là. »
Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de ceux qui apprirent ces choses-là.
Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver après presque 2 semaines, une dizaine de jours d'absence. J'étais encore dimanche dernier avant de partir avec une belle église évangélique à Bangkok. Et mes frères et sœurs, vos frères et sœurs de Thaïlande, vous saluent dans le nom de Jésus. C'est beau de voir la famille de Dieu se développer partout sur la surface de la terre. Merci Alex pour la lecture. C'est une histoire qui ressemble à certains récits que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Un récit plein de fureur, aux conséquences dramatiques. Et ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. C'est de ce côté-ci de la croix. Et c'est une histoire solennelle. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu semble être tellement proche qu'on pourrait presque le toucher. Où Dieu semble être tellement proche que sa réalité, sa personne, son action, sa cohérence sont presque palpables. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour avancer ou pour sombrer. Pour être sauvé ou pour périr. Notre récit du jour, il est vrai. Il est là dans nos Bibles. Ça pique, ça démange, ça gratte, ça choque, ça interroge. Mais il est là. Et il est vrai. Et il est terrifiant. Moi, je ne peux pas lire cette histoire sans me remettre en question. Moi, je ne peux pas lire cette histoire sans mesurer la sainteté de Dieu. Mais je ne peux pas lire non plus cette histoire sans voir sa grâce. Cette histoire, c'est celle d'un couple, Ananias et Saphira. Un couple qui a menti. C'est tout. Ils ont menti. Et ils sont morts. Mais on doit commencer leur histoire un peu plus tôt. Et je vous propose donc de reprendre notre réflexion sur le livre des Actes des Apôtres. On va tenter, dans les mois qui viennent, de traverser ce livre, en tout cas de s'arrêter sur quelques récits particulièrement parlants. Et nous reprenons notre réflexion, finalement, là où on l'a laissée, il y a un mois, à partir du beau tableau de l'Église que Luc brosse à la fin du chapitre 4. Sans vouloir donner l'impression d'être donneur de leçons, que Dieu me garde, je constate quand même que beaucoup d'églises de nos jours sont des églises yo-yo. Des églises yo-yo. Par quoi j'entends ? Des églises qui grandissent, puis qui se heurtent à des barrières invisibles, comme la qualité de l'accueil, comme la compétence des responsables, comme le conservatisme ou le laxisme, la taille des locaux, des luttes internes. Des églises yo-yo, elles grandissent, puis elles s'arrêtent de grandir, elles stagnent et elles régressent. Puis elles repartent de l'avant, pour se heurter de nouveau à ces mêmes barrières invisibles. Des cycles. Mais la toute première église, celle que présentent les Actes des Apôtres à Jérusalem, cette toute première église, cette église exemplaire, n'est pas une église yo-yo. C'est plutôt une église étape de montagne, pour ceux qui aiment le cyclisme. Une église qui commence très bas, à quelques-uns, et puis une église qui monte assez vite. Puis, quand elle monte assez vite, se présente un premier gros problème qui vient de l'extérieur de l'église, à savoir les apôtres Pierre et Jean sont arrêtés par les autorités, acte 3, acte 4. Mais les apôtres Pierre et Jean sont libérés, même menacés, ils refusent de se taire. L'Église prie d'un seul cœur et l'Évangile est annoncé avec puissance. Et l'ascension se poursuit, comme nous le voyons ici à la fin du chapitre 4. Puis, alors que l'ascension se poursuit, il y a un premier gros problème, non plus externe, comme la persécution, mais interne. Et le premier gros problème interne que rencontre cette église étape de montagne, c'est Ananias et Saphira. Dieu intervient avec force, et ensuite l'église progresse. Acte 5, 12 à 16, on le verra probablement avec Célina dimanche prochain. Puis, après ça, il y aura le conflit entre les gens de différentes cultures dans l'église. Acte 6. Et ce conflit sera de nouveau suivi par une incroyable période de croissance. Puis, ce sera le martyre d'Étienne. Ce sera la persécution de l'Église, acte 7. Et cet événement, le martyre d'Étienne, sera suivi par un développement encore plus grand, acte 8, verset 4. Donc, la toute première Église, celle de Jérusalem, c'est une Église étape de montagne, en progrès continu, malgré les luttes internes, malgré les difficultés externes, une église étape de montagne. Et je prie que Dieu nous donne à Mérin d'être une église étape de montagne. Nous visons l'Alpe d'Huez. Il y aura des difficultés internes. Vous en avez déjà connu, nous en avons déjà connu. Il y aura des difficultés externes, rien pour nous surprendre. Mais nous poursuivons. Nous voulons avancer. Nous voulons faire confiance malgré les inévitables difficultés que nous pourrons rencontrer. Une église étape de montagne. Regardons maintenant la beauté de la fin du chapitre 4, les versets 32 à 37 qu'Alex a lu avec nous. L'unité de cœur et d'esprit. la mise en commun des biens, la générosité des chrétiens. Un témoignage puissant, dit le texte, la grâce de Dieu à l'œuvre. L'exemple de Barnabas, l'homme qui encourage. Dans l'église naissante, dans la toute première église de Jérusalem, moi je trouve que c'est un peu le paradis sur terre. C'est un peu le paradis sur terre. C'est ce qui me fait aimer l'église. Et puis il n'y a pas que des apôtres dans l'église. Et ça m'interpelle aussi. Il n'y a pas que des leaders dans l'église. Bien sûr qu'il y a Barnabas l'apôtre, bien sûr. Mais il y a aussi des Barnabas, des hommes et des femmes qui encouragent les autres, qui se donnent à fond, qui ont du cœur pour le Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Bien sûr que les apôtres, c'était le fer de lance du travail initial. Bien sûr que leur rôle était unique. Bien sûr que leur parole était puissante. Mais la grâce de Dieu, et ce texte le démontre, la grâce de Dieu, elle était à l'œuvre dans la vie de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes. Il y avait pour eux, il y avait pour elles, un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, et on ne pouvait pas confondre les deux. Des hommes et des femmes engagés dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, quels étaient les signes concrets de la grâce de Dieu à l'œuvre? Verset 33, la grâce de Dieu était à l'œuvre au milieu d'eux. Comment ça se manifeste concrètement, la grâce de Dieu, ici? Eh bien, d'abord, on a des croyants qui sont unis de cœur et d'esprit. C'est super beau, ça. J'ai l'impression de le retrouver ici, hein? Des croyants unis de cœur et d'esprit. Vous savez, pas de petite jalousie. Pas de position privilégiée à protéger. Unis dans une même aspiration, unis dans un même projet, par les liens de l'amour que le Saint-Esprit tisse entre eux. Et puis, Luc choisit de souligner un aspect particulier parmi d'autres. Un aspect particulier de la grâce de Dieu à l'œuvre au milieu d'eux. Et cet aspect particulier que Luc choisit de souligner ici, c'est que ces chrétiens étaient généreux. Généreux. Ils considéraient que leurs biens appartenaient d'abord au Seigneur. Et que le Seigneur pouvait en disposer, lui, comme il voulait. Alors, il vendait des maisons, il vendait des champs, au profit de la communauté, verset 34. Ils n'étaient pas obligés de les vendre. On ne leur disait pas « vendez ». Ils le faisaient volontairement, de bon cœur. Ils voulaient les vendre. Et puis, pour équilibrer les choses, on lit par ailleurs en Actes 2, 42, par exemple, que les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Ça veut dire qu'ils ne vendaient pas toutes les maisons, qu'ils en gardaient. Tout n'était pas converti en cash. Mais même les maisons qu'ils gardaient servaient la cause de l'Évangile. Même les maisons qu'ils gardaient permettaient aux membres de l'Église de recevoir l'enseignement des apôtres, de prier ensemble, de manger ensemble, de se retrouver, de s'encourager, de prendre la scène ensemble. L'Église, c'était comme une sorte de famille élargie. Mais ici, avec plusieurs milliers de membres, les plus nécessiteux étaient secourus selon leurs besoins. Les plus aisés étaient détachés de l'amour de l'argent. Ça fait rêver, non? Voilà, en tout cas, qui témoigne d'un bel état d'esprit que nous sommes invités, nous, aujourd'hui, à prolonger dans la vie de l'Église. Un état d'esprit, la générosité, être ensemble, s'encourager, une belle démonstration d'ouverture. C'est exemplaire pour nous, des grains de ciel. Mais, vous avez vu comment le chapitre 5 continue l'histoire, avec un mais, une ombre au tableau, un incident lamentable. Deux chrétiens qui qui ne joue pas le jeu. Il joue un autre jeu. Il soigne les apparences, mais ils sont faux. Ananias et Saphira, tristement célèbres. C'est quoi leur faute ici? Faire attention avec ce texte. C'est quoi leur faute? Ce n'est pas tant qu'ils aient vendu leur champ en gardant une partie de l'argent pour eux, c'est pas ça leur faute. L'apôtre Pierre dit expressément au verset 4 qu'ils n'étaient d'une part pas obligés de vendre le champ et que même après la vente du champ, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de l'argent qu'ils avaient gagné. Ils pouvaient le donner ou ils pouvaient le garder. Ils pouvaient donner une partie et puis faire un don, petit ou grand, ou garder tout. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Le problème, c'est qu'ils ont voulu impressionner les autres chrétiens en faisant comme s'ils donnaient tout. Alors qu'en fait, ils gardaient une partie de l'argent pour eux. Ils ont caché le prix réel du champ. Ils ont été faux. Et quand Saphira se pointe, Pierre lui fait même, verset 8, préciser le montant. Après tout, la tricherie, elle aurait pu être du seul fait de son mari, hein. Mais non, ils se sont concertés, ils sont d'accord sur le mensonge qu'ils vont dire, ils sont d'accord pour une démarche qui va éblouir l'Église et leur assurer l'estime de tout le monde. Ils ont donc menti aux hommes, c'est sûr, ils ont menti aux hommes. Et du coup, s'ils avaient continué à mentir aux hommes, toute leur vie, ils auraient eu à couvrir ce mensonge. Toute leur vie, ils auraient eu à faire attention à leurs moindres faits et gestes pour ne pas éveiller les soupçons. Ils se seraient coupés de la communion limpide avec les frères et sœurs. Les autres chrétiens n'auraient peut-être rien vu, mais dans leur cœur, Ananias et Saphira auraient su qu'ils n'étaient pas dans une confiance, dans une relation de confiance avec les autres. Ils auraient su qu'ils n'étaient pas en train de marcher dans la lumière, qu'il y avait une barrière invisible entre eux et le reste de l'Église. L'hypocrisie se serait payée au prix de la solitude. Ils ont menti aux hommes, c'est sûr. Mais ils ont surtout menti à Dieu. Et en un sens, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans cette histoire. Ils ont menti à Dieu. Voilà deux personnes qui apparemment ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Deux personnes qui ont reçu et en direct l'enseignement des apôtres. Deux personnes qui certainement ont vu des miracles dans cette église naissante. Et ils font comme si Dieu ne voit rien. Et ils font comme si Dieu n'est pas saint. Et ils font comme si l'Église n'était pas quelque chose de précieux. C'est quoi l'Église pour eux? Eh bien, en tout cas, ce n'est pas la communion des saints réunis autour de Jésus-Christ. Mais c'est une communauté humaine dans laquelle on cherche à se faire bien voir, à monter en grade, à s'accomplir comme si on était seul au monde. Mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Et là, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Et dans ce moment charnière, il y a Dieu. À bien des moments, les Israélites ont fait infiniment pire qu'Ananias et Saphira. Dans les lettres du Nouveau Testament, nous voyons dans les églises des choses absolument horribles. L'immoralité, l'inceste, l'ivrognerie, des fausses doctrines, la division, des scandales en tout genre. Et tout ce monde-là à continuer sa route tranquillement, sans que Dieu ne les arrête. Les apôtres sont intervenus, mais il n'y a eu ni tremblement de terre, ni coup de foudre de la part de Dieu. Tout le monde a continué. Contre Israël, les prophètes annonçaient toujours un jugement collectif. Contre les sept églises de l'Apocalypse, les avertissements sont collectifs. Mais où est-ce que Dieu frappe des individus comme il a frappé Ananias et Saphira? Où est-ce que Dieu fait ça? Eh bien, il me semble qu'il le fait trois fois dans l'Écriture. Trois fois dans l'Ancien Testament. La première avec Nadab et Abihu, en Lévitique 10, versets 2 et suivants. Et nous sommes là au début du ministère lévitique, au début du ministère des prêtres en Israël. Puis il le fait avec Achan, en Josué 7. Et là, nous sommes au début de la conquête de Canaan. Il s'agit d'investir le pays promis. Et puis, il le fait une troisième fois avec Uzza en 2 Samuel 6. Et là, c'est le début de la lignée royale de David. Autrement dit, Dieu fait ça à des moments où l'enjeu est particulièrement important et où la présence de Dieu est palpable. Et c'était le cas ici. Nous sommes à la fondation de l'Église. C'est le début de l'Église. Christ vient de monter au ciel. Le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance. Il y a eu la Pentecôte. Les apôtres ont une autorité unique. Et sur leur autorité unique dans l'histoire, eh bien le Seigneur bâtit, comme il l'a promis, son Église. Matthieu 16, verset 18. Une Église pour laquelle Jésus s'est donné pour la faire paraître un jour devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, verset 25. C'est sérieux l'Église. Et nous trouvons, par ailleurs, dans ce récit d'Acte 5, pour la première fois, la mention du terme « Église ». C'est au verset 11. C'est la première fois qu'on lit le mot « Église » dans le livre des Actes. À de tels moments, à mon sens, Dieu veut nous faire comprendre qu'on ne se joue pas de lui. Qu'il y a des moments charnières dans la vie, des moments clés où on ne peut pas se moquer de Dieu. Et maintenant on peut ? C'est ça ? Ah, dans un certain sens, oui. Parce que le jugement dernier n'est pas encore là. Oh, parfois, Dieu semble intervenir par anticipation, mais généralement, l'ivraie pousse dans les champs à côté du bon grain. Et on n'arrache pas le tout. Dieu le fera. Dieu patiente avec nous. Dieu patiente avec moi. Il attend qu'on comprenne, qu'on mette de l'ordre dans nos affaires, qu'on mette de l'ordre dans notre relation avec lui. Il patiente. Au pire, quand les gens s'entêtent à foncer dans une mauvaise direction, Dieu les y abandonne. Pharaon, Romains 1, Dieu les y abandonne. Tu veux y aller ? Ben vas-y. Tu veux te prendre le mur ? Prends-toi le mur. Mais pour nous aujourd'hui, l'histoire tragique d'Ananias et de Saphira constitue à mon sens une sérieuse mise en garde. Dites-moi, quel est le péché que les non-croyants lancent à la tête des croyants? Que nous reprochent des croyants en rupture d'église? Qu'est-ce que les enfants de chrétiens détestent le plus chez leurs parents? C'est l'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est l'hypocrisie. L'accusation, elle est parfois injuste, mais pas toujours. L'hypocrisie, c'est vouloir paraître ce qu'on n'est pas. Et elle fait des ravages. Nous devrions lui faire la guerre, sinon nous aussi nous nous enfermerons dans la fausseté et la solitude, nous aussi nous nous exposerons un jour à subir le déplaisir de Dieu et son jugement. Place à la lumière, place à la droiture, place à un cœur entier. Dans son évangile, l'apôtre Jean écrit « Celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. » Dans son épître, il en ajoute « Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. » Si nous vivons dans la lumière, on est en communion les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on a à cacher, mes amis? Qu'est-ce qu'on a à cacher? Nous sommes des pécheurs dont les fautes ont conduit Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire que ça? Mais nous sommes des pécheurs, graciés, pardonnés, rachetés à grand prix, adoptés, aimés. Et c'est ça la base de notre communion. Pas une supposée perfection, mais le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Qu'avons-nous à cacher? Qu'avons-nous à cacher? Nous sommes faibles, nous sommes inconséquents, nous sommes parfois brisés. Et en passant, je crois que l'on se connecte bien plus profondément avec ceux qui partagent nos souffrances et nos échecs que nous le faisons avec ceux qui ne partagent que nos succès. Prétendre être parfait, même inconsciemment, c'est de la folie. Dire que nous sommes imparfaits, cela permet aux gens de prier pour nous. Dire que nous sommes imparfaits, ça permet aux gens de nous comprendre. Ça leur permet d'être en communion avec nous. Et puis c'est la vérité, nous sommes imparfaits. Nous connaissons tous des chrétiens où quelque chose ne va pas, mais qui ne veulent pas le dire. Peut-être nous en sommes nous-mêmes. Mais quel mal y a-t-il à avouer « je suis inquiet, je n'y arrive pas avec mes enfants, je n'y arrive pas avec mon mari, avec ma femme, j'ai du mal à prier, je suis trop tenté par certains sites internet, je m'énerve trop facilement ». Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Ah, Dieu peut-être. Mais mes enfants, mon mari, ma femme, les autres chrétiens. Ah ouais, il peut y avoir des gens qui refusent de pardonner. Et en fin de compte, c'est leur problème. Mais généralement, quand nous disons, nous, ce que les gens soupçonnent déjà, alors nous nous libérons d'un grand poids et nous commençons à poser les bases d'une communion authentique. Je conclus. La Bible, elle n'est pas là pour nous épater par des héros inaccessibles. Mais elle est là pour nous faire connaître Dieu, son amour, ses exigences et sa grâce. Cette histoire-là, quand je la lis sérieusement, elle me redit à moi l'importance de la droiture, comme un écho aux dénonciations les plus fortes de Jésus contre l'hypocrisie. Mais surtout, ce texte me rappelle à moi l'immensité de la grâce de Dieu qui pardonne nos fautes et qui ne nous fait pas tous tomber. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, moi, j'ai fait pire dans ma vie, bien pire dans ma vie, que manquer de droiture en vendant un champ. Et Dieu ne me crame pas. Et je pense qu'en dehors de la grâce de Dieu, nous serions tous par terre ce matin et qu'il n'y aurait personne pour mener les autres en terre. Même pas les jeunes gens. Vous vous rappelez le beau tableau que nous avons dressé au début, acte 4, verset 33, la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Elle agissait avec force en eux tous. Sauf chez Ananias et Saphira. Derrière leurs mensonges, derrière leur hypocrisie, il y avait une conception de la vie où la grâce de Dieu ne jouait aucun rôle. Ils ne l'exercent pas à l'égard des autres, ils manquent de générosité. Ils ne l'attendent pas de la part des autres, tout est dans le paraître. Ils ne comprennent pas que la grâce de Dieu est pour tous, pour eux aussi. Ils pensent en profiter sans en vivre. Ils sont un contre-exemple pour nous et un sérieux rappel. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'exemple positif, il est triple. Une église étape de montagne, on poursuit. Des chrétiens qui vivent dans la lumière, dans la communion, et toujours encore, pour ma vie, pour ta vie, la grâce de Dieu, qui ne te crame pas où tu es, mais qui te relève, qui te sauve, qui te donne sa plus grande bénédiction, même là où tu méritais sa plus grande condamnation. Choisissons notre champ, choisissons notre camp, celui de la fidélité à la grâce de Dieu qui agit au milieu de nous. Amen.
message qu'on a entendu ce matin. Comment répondre à ce message? Il est vrai que dans nos églises évangéliques, on n'est pas trop pour la confession. C'est quelque chose qu'on a laissé à la Réformation, apparemment. Alors qu'on a entendu ce matin, on est pécheur, on a besoin aussi d'être réel devant Dieu. Et c'est quelque chose que le psalmiste a souvent fait aussi dans, on va dire, le recueil des chants de l'Église. David a reconnu aussi sa nature pécheresse et ses fautes. J'aimerais vous inviter à prendre de ces paroles, de ce cantique. Nous nous courbons à notre Père, que j'ai découvert aussi lorsque Philippe l'a suggéré, et reconnaître aussi qu'on a besoin de Dieu, qu'on est aussi pécheur. Mais nous allons passer ensuite à relire, réentendre ces paroles qu'il a citées tout à l'heure, Philippe, de 1 Jean 1, pour reconnaître que Jésus, lorsqu'on est réel avec lui, il est prêt aussi à nous pardonner. Nous nous courbons au notre Père. Coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. La vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si mon peuple s'humilie, s'y prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Son péché j'effacerai, son pays je guérirai.
Ma face
se détourne de sa voix impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Si mon peuple s'humilie, si prie en cherchant ma face, se détourne de sa voix impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, si prie en cherchant ma face, se détourne de sa voix impure, son péché j'effacerai, son pays je
Aujourd'hui, c'est la confession des Paulais, et grâce à Dieu, on est toujours vivants. Le mois dernier, nous avons vécu une semaine stressante. Notre petite fille Alice, de 3 ans, a dû être hospitalisée pour cause de détresse respiratoire. Et à un moment donné, Alexandre et moi, on a prié pour quelque chose de particulier. Et j'ai pensé que c'était une occasion magnifique pour Dieu de montrer l'efficacité de la prière. Et Dieu rata cette occasion. Ah, j'ai été déçue. J'ai pas compris. J'étais même en colère. Et je suis restée 24 heures comme ça, à ruminer mes sentiments. Puis j'étais tellement mal qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de me placer devant Dieu. Je me suis agenouillée et j'ai répandu mon cœur devant Dieu, comme c'est dit souvent dans les psaumes. Alors, en pleurant, je lui ai dit mon incompréhension, ma déception, ma frustration. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben maintenant, tu t'es assez plainte. J'ai demandé pardon et j'ai décidé de proclamer les vérités auxquelles je crois profondément. C'est que Dieu m'aime, qu'il est souverain et que son temps n'est pas mon temps. Et vous savez quoi? Tout à coup, j'étais inondée d'une joie extraordinaire. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que Dieu veut qu'on soit vrai devant lui, qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on lui expose, qu'on pense vraiment ce qu'on est vraiment. D'ailleurs, je ne l'étonne pas lui, puisqu'il connaît mon cœur, mais c'est important que j'entende ce qui m'habite, les mots qui m'habitent, pour qu'il puisse sortir et qu'on n'en reste pas là, mais qu'on proclame après la vérité. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Mais j'ai réalisé aussi, c'est qu'il faut qu'on soit dans cette sécurité de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que je fasse, je peux compter sur sa grâce. Nous allons célébrer la Sainte Cène. Et il y a un événement. Je voulais juste dire que je termine en disant que c'était une leçon que je crois que Dieu nous donne, mais en tout cas pour moi. Nous allons célébrer la Sainte Cène. Et il y a un événement qui me touche toujours beaucoup, c'est Gethsémané. Jésus a dit qu'il était venu pour cette heure. Et au moment d'affronter cette heure, d'affronter la croix, il a exprimé son angoisse, son désir d'être épargné, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Il a osé l'exprimer, le Jésus humain a osé exprimer son angoisse. Mais comment a-t-il reçu la force pour affronter ce qu'il devait affronter ? C'est en soumettant sa volonté à celle de Dieu, à celle de son Père, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et là aussi, c'est une leçon pour nous et pour moi.
Nous allons recevoir la Sainte Cène et comme introduction, ou plutôt comme accompagnement, j'aimerais lire le passage que vous connaissez dans le chapitre 26, verset 26 de l'Évangile de Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Nous prions. Merci pour cette table à laquelle tu nous invites. Merci pour l'étendue de ta grâce, de ton amour, qui t'a fait, toi, aller jusqu'au bout du sacrifice ultime. Merci pour la réconciliation avec Dieu, pour le salut, pour l'espérance. Nous voulons reprendre des forces, Seigneur. Des forces exceptionnelles, extraordinaires, qui ne se trouvent que près de toi. Fais-nous cette grâce, Seigneur, que ce pain, que ce vin soit nourrissant pour la suite de la route, qu'il nous rappelle intimement, profondément, l'étendue de ton œuvre en notre faveur. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen. Et nous allons distribuer maintenant la Sainte Cène. Si je peux demander à trois personnes de nous accompagner. Le vin se trouve sous deux espèces, ou plutôt trois, puisque les plateaux sont répartis entre le vin tout autour et le jus de fruit tout au milieu. Et pour ceux qui veulent recevoir la coupe à la place, ils n'ont qu'à faire un signe. Merci.
Nous prions encore. Seigneur, nous sommes rappelés l'immense cadeau que tu nous as fait. Ce cadeau qui a été la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Ce petit repas nous l'a rappelé et nous voulons te remercier, Seigneur, de cet immense cadeau, de ce que nous avons pu nous rappeler, quelque chose qui est inimaginable, humainement parlant, mais qui a été possible à toi seul. Nous te louons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et c'est le moment de l'offrande. Vous savez que nous sommes une église libre, libre de toute finance de l'extérieur. C'est vous qui financez cette église, qui financez aussi et surtout nos deux pasteurs. Donc, leur salaire dépend de vous. Et non seulement, nous avons aussi des envoyés de par le monde, des missionnaires qui dépendent également de vos contributions. Alors je vous invite à cette offrande joyeusement, pas comme Ananias et Saphira, mais comme Barnabas. Et donc, voilà.
Pendant l'offrande, nous allons chanter « Torrent d'amour et de grâce », sachant que grâce à la croix, nous sommes pardonnés. Torrent d'amour, son amour est aussi comme un fleuve qui coule et on veut célébrer cette vérité et cette joie.
Thank you.
puissions tous chanter ce magnifique cantique quand ce sera le moment, quand le Seigneur nous prendra vers lui, à lui, quand nous lui appartiendrons, pas seulement de par nos cœurs, mais aussi par nos corps. J'aimerais juste remettre cette offrande entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions, mais nous sommes heureux de pouvoir contribuer chacun à ce que cette Église puisse vivre, à ce qu'elle puisse avancer et surtout à ce que ton royaume puisse avancer. Et nous te le remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est le moment de présentation des annonces. Mais surtout, tout d'abord, je pense que ça sera Diego qui va se présenter.
Moi, je vais présenter Diego.
C'est mieux.
C'est mieux, voilà. Parce qu'il est chilien de toute façon. Donc. Voilà, on est très heureux d'avoir Diego avec nous. Donc, c'est Diego Paisa qui va faire le concert cet après-midi. C'est un privilège de l'avoir. Il vient de la région parisienne. Il habite là depuis 20 ans, originairement donc du Chili. Pour ceux qui ont pu assister à une soirée concert jam, jazz hier soir à Genève, ils ont, je pense, apprécié le privilège d'être là et d'écouter Diego jouer hier. Alors, si vous êtes libre à 16h, merci de venir. Si vous avez des voisins qui semblent avoir du temps libre, merci de les inviter. Diego, est-ce que tu aimerais dire quelques mots sur ce que tu aimerais faire dans ce concert? Je te passe mon micro, c'est le plus simple.
Bonjour tout le monde, ça va? Eh bien, déjà, je suis très content d'être là. Je me remercie David d'avoir accepté de m'inviter parce que je lui ai dit, écoute, je vais dans le coin, écoute, tu veux bien que je vienne jouer dans ton église? Il m'a dit, ah, écoute, pourquoi pas? Et vous avez gentiment accepté de me recevoir. Donc déjà, ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais jouer tout à l'heure, ce sont des compositions à moi. Certaines sont que instrumentales pour guitare et d'autres sont chantées en espagnol. Donc pour ceux qui veulent progresser en espagnol, ça va être une bonne occasion. Et c'est des compositions qui parlent de la vie, de la foi, de la vie, etc. Et j'explique bien sûr parce que l'espagnol, tout le monde ne le comprend pas. Mais l'idée, c'est de faire passer un moment pour ceux qui sont croyants, de visitation, de présence, de méditation, de prière. Et pour ceux qui ne le sont pas, ça m'est arrivé aussi de jouer dans pas mal de lieux qui ne sont pas des lieux confessionnels ou chrétiens. Et j'invite les gens à se laisser visiter. Et des fois, il y a des belles choses qui se passent parce que vous savez comment l'Esprit Saint fonctionne. Et puis aussi de vivre un moment de vie, de bonne humeur, de beauté. Et donc, j'aime bien faire ça. Pour moi, c'est un partage. C'est comme un enfant qui arrive avec un nouveau dessin et qui vous montre ce qu'il a fait. Ben, je me sens comme ça quand je fais un concert. J'aime bien que ça soit simple, et que ça soit un moment de bonté, de beauté, de présence. Voilà, à tout à l'heure peut-être alors.
Muchas gracias.
Ça marche. On vous a parlé du camp famille de cet été, que les inscriptions allaient très vite. Il reste quelques places. Alors, si vous voulez y aller, il reste 10 places, paraît-il. Alors, si vous êtes intéressé, vous adressez à Philippe et puis il vous donnera les coordonnées. Les ateliers bibliques. Alors, mardi, c'est le deuxième atelier de la série L'espérance chrétienne illumine la vie, avec le sujet du jour de l'Éternel à la résurrection du Christ au dernier jour. Alors rendez-vous mardi soir à 20h15. Si vous voulez des papillons, il y en a, avec tous les sujets, il y en a sur le présentoir, vous pouvez vous servir. Journée œcuménique. Alors, tous les deux ans, il y a une journée œcuménique, donc organisée par les paroisses catholiques, protestantes et évangéliques. Claude, qui a participé à la préparation de la journée, nous a dit que le sujet serait très intéressant. De la loi au discernement, l'intervenant, c'est le père Pierre Aymonet, directeur de la revue Choisir, un mensuel culturel jésuite. Donc, ces journées ont lieu à l'Institut Bosset, à Céligny. Il y a des feuilles sur la table, dans le foyer. Alors, si vous avez tous les renseignements et les bulletins d'inscription. Les inscriptions, c'est jusqu'au 25 février. Alors, servez-vous, il paraît que ce sera très bien. On vous rappelle le dimanche 10 mars à 14h, leur journée rêver et construire la famille de Dieu, l'enfance, c'est l'affaire de tous. On vous l'a déjà annoncé, on vous l'annoncera encore, on vous le rappelait. Le conseil est porteur du projet, mais on a besoin de toutes vos idées. Même ceux qui disent, même les enfants, j'y connais rien. Ou si je propose quelque chose, on me dira, bah vas-y, fais-le. Non, c'est le projet du conseil, mais on a besoin de vos idées. Et le conseil se mettra en place avec vous. Le dimanche 17 mars, voilà, c'est un mois de mars, c'est bien, bien occupé, il y aura le colloque après le repas canadien aussi. Il y a des sujets très importants, donc vous allez recevoir le courrier avec la convocation, mais réservez déjà ce dimanche, donc ça fait deux dimanches en suivant, comme ça vous êtes occupés pour les dimanches, et ce sera des sujets très importants, alors on aura besoin de vous. Groupe d'hommes. Alors, c'est Alexandre qui va présenter.
Alors, c'est pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les vieux, donc de 15 à 99 ans. Nous avons essayé de réanimer le groupe d'hommes qui existait déjà depuis un certain moment. Et nous avons prévu le premier jeudi de mois pour nous réunir à 18h30 ici, dans les petites salles. Je vous le rappelle, le premier ou le suivant, plutôt, c'est le 7 mars, jeudi 7 mars à 18h30.
Les groupes de nettoyage. Alors, Claire-Lise avait déjà fait l'annonce. Suite à la dernière annonce, il y a un groupe qui s'est annoncé. Elle a pu reformer. Alors, merci aux personnes qui se sont annoncées. Si on pouvait faire encore un ou deux groupes de plus, ce serait bien. C'est mathématique, hein. Plus il y a de groupes, moins notre tour revient souvent. Alors, n'hésitez pas. Si vous voulez servir l'Église de cette manière, n'hésitez pas. Adressez-vous à Claire-Lise, qui sera très heureuse de pouvoir reformer quelques groupes de nettoyage. Merci d'avance.
Je vous invite à vous lever avec cette parole d'envoi sous la plume de l'apôtre Paul en Tite 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Belle semaine et bon dimanche à chacun, chacune.
ce soit joli ici, quoi.
Oui, oui, on peut enlever voilà. Ça. Où est-ce que tu aimerais te mettre?
Ben, je vais me mettre ici, tu vois.
D'accord. Okay, et on le fait tout ça.
Et puis, je peux utiliser ton siège de piano?
Oui, bien sûr. Donc, tu fais ce que tu veux. Ouais.
Et on fait ça tout de suite, on le fait après.
Alors, on peut, ben, parce qu'on a des bras.
Donc en fait moi j'ai besoin juste d'un
okay.
pied de
tu un aimerais
micro,
un
pupitre et puis c'est tout.
Je vais enlever tout le reste.
Ouais.
Débrancher tout ça.
Je veux l'enlever ?
Oui. Tu sais comment faire ?
Oui.
C'est ça là ?
Dessous.
Ok. D'accord. Et pas là. D'accord. Ok.